Merci Bora pour la lecture. On lit juste les 15 premiers versets, mais la prédication portera sur l'ensemble du passage, mais surtout en regardant de manière particulière ces 15 premiers versets qui concluent bien l'histoire de Jacob qu'on a vue jusque-là. Je mentionne avant qu'on se lance dans l'étude de ce texte qu'on a un petit problème de son, vous avez probablement remarqué ça. En fait, ce n'est pas un problème de son, c'est un problème avec le PC qui a beaucoup travaillé peut-être depuis un an de confinement et qui atteint un petit peu quelques limites là, on doit voir ça. Donc on ne pourra probablement pas régler ça aujourd'hui, mais d'après ce qu'on nous dit, dans les retours, c'est pas si gênant que ça. Donc on va laisser comme ça. On espère que ça gênera pas l'écoute de la prédication et l'écoute de la parole. Et si ça venait à être vraiment, vraiment compliqué, ceux qui sont dans un groupe particulier pour les retours pourront le mentionner. Et on verra ce qu'on peut faire pour améliorer. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. On reconnaît jour après jour combien on est dépendant de Dieu. Et on va exprimer cette dépendance encore maintenant. Oui, notre Dieu, on a besoin de toi, on reconnaît qu'on n'est pas tout puissant, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir dans ce monde, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. On reconnaît qu'on est dépendant de toi pour que tu nous nourrisses par ta parole et on te prie que ça soit ce que tu fasses maintenant alors qu'on passe quelques minutes à regarder ce chapitre 35 de la Genèse. Nourris-nous par ta voix, montre-nous plus de ta gloire, de ta grandeur, de ta personne. Montre-nous plus de la personne de Jésus, ton Fils, que tu as envoyé dans ce monde. Et on te prie, notre Dieu, que les problèmes techniques ne soient pas un frein pour l'œuvre de ta parole maintenant. On te prie de permettre que ta parole agisse puissamment dans nos cœurs pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc on termine ce récit, cette histoire, cette découverte de la vie de Jacob, des aventures de Jacob. Et on est à la fin de ce cycle de Jacob. On a lu le chapitre. Une partie en tout cas. Et le passage qu'on a lu, c'est un peu comme la scène de fin d'un film. Alors, je ne suis pas un expert dans les films, mais le peu que je connais, en tout cas les peu de films que j'ai regardés, j'ai l'impression qu'à la fin des films, après 1h30 d'action, de suspense, de scènes qui s'enchaînent, on a là la fin de l'histoire. Il y a le rythme qui ralentit, il y a les héros qui se quittent, il y a la vie normale qui va reprendre et chaque héros va prendre son chemin propre et continuer sa vie après le feu de l'action. Et cette dernière scène dans un film, c'est un moment important. On en a besoin pour reprendre notre souffle après beaucoup d'actions. Mais on en a aussi besoin pour regarder un peu en arrière sur tout ce qui s'est passé et pour tirer un bilan. Et c'est un peu ce qu'on a ici dans Genèse 35. C'est comme si jusque-là, dans la vie de Jacob, c'était que de l'action. Épisode après épisode, une suite d'événements mouvementés. C'était fuite après fuite, tromperie après tromperie. Et tout ça sur un fond de suspense constant. Puis là, c'est comme si ce chapitre ralentissait un peu le rythme pour nous permettre de souffler, pour nous permettre de réfléchir à tout ce qui s'est passé dans la vie de Jacob, pour qu'on puisse regarder en arrière sur la vie de Jacob et qu'on puisse tirer le bilan. Et si on regarde en arrière sur la vie de Jacob, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une réalité déterminante, on voit un fil rouge tout au long du récit. On voit une main providentielle qui était là à chaque instant. C'est Dieu lui-même, la main de Dieu qui a protégé Jacob, qui l'a béni, qui a accompli ses promesses envers lui. En fait, on voit dans ce chapitre que la plupart des événements qui sont mentionnés ici dans Genèse 35, ce n'est pas des choses nécessairement nouvelles, mais c'est des choses qui font référence à l'histoire passée de Jacob, à ce qui s'est déjà passé dans ce récit, pour montrer que Dieu a été là tout le long. On voit au verset 1, il est question du Dieu qui est apparu à Jacob. Au verset 3, il est question du Dieu qui a répondu à Jacob quand il était dans la détresse. Au verset 3, toujours, il est question du Dieu qui était avec Jacob. Au verset 7, il est question du Dieu qui s'était révélé à lui. Donc la réalité déterminante dans la vie de Jacob, c'est Dieu lui-même. Et c'est vers ce Dieu que ce chapitre et que la vie de Jacob nous amènent à tourner les regards. Et ce chapitre ou ces versets qu'on a lus nous amènent à tourner les regards vers quatre vérités fondamentales à propos de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Quatre vérités vers lesquelles ce chapitre nous amène à regarder concernant Dieu. La première chose, en lisant ces versets, on doit regarder à Dieu et sa grâce. Dieu et sa grâce. Quand on parle de Jacob et de Dieu, c'est avant tout ça dont il faut parler, de la grâce de Dieu. En fait, on voit que Bethel est mentionné plusieurs fois dans ces versets, 8 fois en tout, et ce n'est pas anodin. C'est un lieu où Jacob avait déjà été et que Jacob avait nommé ainsi Bethel, la maison de Dieu. Et c'est un lieu qui, pour Jacob, évoquait des souvenirs particuliers. Je sais pas si pour vous aussi, il y a des lieux comme ça où quand on les évoque, quand on les mentionne, ça éveille des souvenirs en vous, des sentiments particuliers. Peut-être le lieu où vous avez croisé votre conjoint du regard pour la toute première fois, le lieu où vous avez passé la maison où vous avez passé votre enfance, le bâtiment où il y a eu votre premier emploi. Voilà des lieux où il y a des souvenirs particuliers. Et ben c'est un peu ça Bethel pour Jacob. On peut pas mentionner Bethel dans la vie de Jacob sans penser à la grâce de Dieu. En fait, c'était le lieu, l'endroit où Dieu s'était révélé à Jacob pour la toute première fois, alors que Jacob était en train de fuir la maison de son père. Il venait de trahir son père et son frère, sa vie était en danger, il était un fugitif, tout semblait perdu pour lui. Mais Dieu s'était révélé à lui, par grâce, à Bethel, pour lui faire des promesses merveilleuses. Donc dans notre passage, quand Dieu dit à Jacob au verset 1, « Lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas », c'est un rappel fort pour Jacob que tout dans sa vie vient de la grâce de Dieu, pas de ses mérites. Et on le voit d'ailleurs, il est question au verset 1 du Dieu qui est apparu à Jacob. Il est question au verset 7 du Dieu qui s'est révélé à Jacob. Dieu a pris l'initiative envers Jacob pour se révéler à lui, pour lui montrer sa grâce, même s'il ne le méritait pas. Dieu a cherché Jacob, même si Jacob ne cherchait pas Dieu. Et heureusement, parce que s'il avait fallu attendre que Jacob le mérite pour que Dieu se révèle à lui, l'histoire aurait pris une tournure vraiment différente. Mais c'est ça la grâce, une faveur imméritée de la part de Dieu, envers des fugitifs comme Jacob, envers des coupables comme nous. Et en voyant ça dans la vie de Jacob, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma propre vie. Le fait que je sois chrétien aujourd'hui, je peux pas l'expliquer autrement que par la grâce de Dieu. Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'allais me tenir devant vous un jour en train de vous parler de la Bible, en train de vous parler de la vie chrétienne, j'aurais dit jamais, c'est impossible, c'est la dernière des choses que j'aurais voulu. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais plus je grandissais et plus je rejetais la foi chrétienne. C'est pas que je croyais pas en Dieu, ça me dérangeait pas que Dieu soit là, mais par contre ça me dérangeait qu'il ait un droit de regard sur ma vie et qu'il me dise comment vivre. Et donc je voulais que Dieu soit dans un coin et moi vivre ma vie comme je le voulais, tranquillement. En fait, mon but c'était d'attendre d'avoir 18 ans pour avoir enfin mon indépendance, vivre ma vie comme je le voulais, sans Dieu. Sans rien qui s'apparente à la foi. Mais heureusement que Dieu n'a pas entendu que je le mérite pour se révéler à moi. Quand j'avais 17 ans, Dieu m'a montré la gravité de mon péché, la grandeur de sa grâce en Jésus. Il m'a montré la condamnation que je méritais, la beauté du pardon qu'il m'offrait. Dieu m'a fait connaître sa grâce de manière totalement imméritée. Et c'est ce qui fait que je me tiens devant vous aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis chrétien aujourd'hui. Il n'y a aucune autre raison que la grâce de Dieu. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous auriez des témoignages similaires. Peu importe la manière ou le moment où Dieu s'est révélé à vous, où vous êtes venu à Jésus, vous pourriez témoigner que c'est uniquement par grâce. Vous regardez en arrière sur la frise chronologique de votre vie, et tout ce que vous voyez, c'est le mot « grâce » écrit en lettres majuscules par la main de Dieu. Tout vient de la grâce de Dieu. C'était l'expérience de Jacob, mais c'est aussi la nôtre en tant que chrétien. Aujourd'hui, beaucoup ont une idée de Dieu, de quelqu'un avec qui on peut marchander. Ah, je fais ma part et il va me bénir, il va m'aider. Je donne un peu de mon temps, je vais à l'église et puis Dieu va me protéger. Dieu doit me faire du bien en conséquence. Il me doit la sécurité et me doit le bonheur. Et on peut penser ça même en tant que chrétien. Penser qu'on doit s'accrocher pour être à la hauteur, pour continuer à être accepté comme un joueur de foot qui doit continuer à être bon pour rester dans le club et continuer à jouer dans le club. Et si j'échoue, si je sors du chemin, alors c'est fini, je ne mérite plus rien et c'est normal qu'il n'y ait que des malheurs qui arrivent dans ma vie. Mais ce que la vie de Jacob nous montre, c'est qu'on ne mérite rien depuis le début. Dieu bénit des gens comme Jacob qui ne le méritent vraiment pas. Et ça, c'est aussi vous et c'est aussi moi. Et honnêtement, le fait de voir le portrait de Jacob ces dernières semaines, c'était parfois comme me voir dans le miroir, voir mon propre portrait dans le miroir. Tromperie, déception, ambition, ces choses sont bien trop souvent présentes dans nos cœurs. Et dans un sens, c'était rassurant de voir que c'est des gens comme ça, des gens comme Jacob, que Dieu bénit, même s'ils ne le méritent pas. Donc voir ce portrait de Jacob, c'est avant tout voir la grâce merveilleuse de Dieu. Voir que l'intervention de Dieu dans notre vie dépend de sa grâce, bien plus que de notre fidélité. Dieu et sa grâce, c'est la première chose à laquelle il faudrait regarder. Mais la deuxième chose vers laquelle ce texte nous amène à porter les regards, c'est Dieu et sa protection. Dieu et sa protection. Parce que regarder en arrière sur la vie de Jacob, c'est aussi voir la grâce de Dieu qui protège Jacob. Si vous vous souvenez, il y a tellement de moments dans la vie de Jacob où il était en danger, où on aurait pu penser « Ah, mais sa vie va s'arrêter, c'est terminé pour lui ». Il est parlé ici au verset 1 et au verset 7, on a mentionné du moment où Dieu s'est révélé à Jacob, il s'est révélé à lui alors qu'il fuyait son frère. Et son frère Ésaü, si on s'en souvient, il voulait le tuer. Mais Dieu l'a gardé. Ensuite, Jacob est parti loin de chez lui, seul, sans rien. Et là encore, Dieu l'a gardé. Ensuite, Jacob a été chez Laban, qui voulait le tromper, qui voulait lui faire du mal pendant plusieurs années. Et là encore, Dieu l'a gardé. Et puis, Jacob a voulu fuir de chez Laban. Il est parti de chez Laban. Les fils de Laban le regardaient d'un mauvais œil. Laban voulait porter la main sur lui. Mais là encore, Dieu l'a gardé. Donc, on regarde en arrière et on voit tout au long de la vie de Jacob la protection de Dieu. Mais non seulement dans le passé, mais encore dans le présent, dans ce chapitre. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu cet épisode, ce récit terrible de viol et de massacre qu'il y avait au chapitre 34. Et on se souvient du contexte où Jacob était effrayé face aux habitants de la région qui étaient bien plus puissants que lui, qui auraient pu l'attaquer et détruire toute sa personne, toute sa famille suite à ce massacre. Mais une nouvelle fois, on voit que Dieu intervient pour protéger Jacob. Au verset 5 du chapitre 35, il est dit « La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. » Avoir sur soi la protection de Dieu, c'est un peu comme marcher dans la rue avec son grand frère qui est bien plus fort, bien plus grand, bien plus musclé que vous. C'est le cas pour mon grand frère, et donc je suis assez en sécurité quand je marche avec lui dans la rue. Il est bien plus grand que moi, ça c'est peut-être difficile à imaginer, bien plus musclé, ça c'est pas très difficile à imaginer, mais je suis vraiment en sécurité quand je suis avec lui. Et c'est un peu ça pour la vie de Jacob. Tout au long de sa vie, il y a la bonne main de Dieu qui est sur lui et qui le protège. Ça c'est la confiance que Jacob pouvait avoir en Dieu. Et c'est la même confiance que d'autres dans l'histoire de la Bible ont eu, le roi David, on pense au psaume 23, où David dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Et c'est la même confiance qu'on peut avoir en tant que chrétien aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on doit s'attendre à ce que Dieu nous protège de tout mal dans ce monde, dans le sens où on n'aura aucune difficulté, aucune souffrance, aucune épreuve, rien de mauvais qui nous arrivera. Ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. Mais c'est qu'on peut avoir confiance que peu importe ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit est sous le contrôle souverain et sous la bonne main de Dieu. Dieu accomplira notre plan, son plan dans notre vie, il accomplira son plan dans notre vie, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a autour de nous. Si on est à lui, il nous conduira jusqu'à la gloire, peu importe ce qui se passe dans le monde. Et donc on peut avoir confiance, on n'a pas à craindre ce qu'on voit dans ce monde en tant que chrétien. On étudie en ce moment 1 Corinthiens le jeudi soir, et on a vu jeudi passé 1 Corinthiens chapitre 3. Et à la fin de ce passage, Paul dit ceci, en parlant aux Corinthiens, il écrit « Tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Paul écrit ici en réponse à des divisions dans l'église de Corinthe, mais ce qu'il met en avant s'applique de manière plus large. Il dit aux Corinthiens que tout est à eux. Même des choses qu'ils pourraient craindre, des choses qu'ils pourraient redouter, comme le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Ces choses qui sont des menaces pour l'être humain ne sont pas des menaces pour le chrétien. Parce qu'on a la juste perspective sur ces choses pour pouvoir les aborder avec confiance, avec sérénité, en sachant que Dieu nous garde au travers de tout ça. On a la protection de Dieu, même dans la souffrance, même dans la mort, la protection de Dieu qui ne fait pas d'erreur, qui garde nos âmes. Et encore plus loin que ça, si tout est à nous, nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Donc on est entre de bonnes mains, on n'a pas à craindre. Je ne sais pas ce que vous craignez le plus dans votre vie. Des tensions familiales qui vous troublent, le regard d'un collègue qui est vraiment hostile à votre foi chrétienne, le fait de ne pas savoir ce que l'avenir vous réserve, la peur du Covid peut-être ou d'une autre maladie. La peur de la mort ou de la mort d'un proche, de perdre quelqu'un plus tôt que vous aviez prévu. Beaucoup de craintes qu'on peut avoir, beaucoup de craintes qu'on peut avoir en ce moment par rapport à l'avenir. Mais si on est en Christ, on peut avoir la paix malgré la crainte. On peut avoir le repos malgré la peur. Parce qu'on sait qu'on est entre les bonnes mains de Dieu. Je suis toujours encouragé de recevoir des nouvelles de Porte Ouverte, qui envoient des mails à propos des chrétiens persécutés. Et de voir la confiance et l'assurance qu'ils ont malgré les difficultés Et il y a quelques semaines, j'ai lu un mail qui parlait de Ibrahim, un frère de 34 ans qui habite en Iran et qui était en prison depuis ses 24 ans. Il a 34 ans, depuis ses 24 ans, il était en prison à cause de sa foi. Il est ressorti et à nouveau aujourd'hui, il est mis en cause par la justice. On pourrait dire, mais il y a tellement de raisons pour lui de craindre, de redouter, d'avoir peur. Mais voici ce qu'il disait et ce qui était rapporté dans le mail. La puissance de l'amour du Christ pour nous est telle qu'aucun pouvoir ne peut nous détourner de ce que nous croyons. Ils peuvent nous faire du mal physiquement, mais ils ne peuvent pas faire de mal à notre âme. Ce frère a bien compris le caractère de Dieu qui protège, qui garde ses enfants. Il a bien compris qu'il était sous la protection de Dieu, comme nous le montre la vie de Jacob et comme nous le montre ce texte. La troisième vérité vers laquelle on doit pointer les regards en lisant ces versets, c'est vers Dieu et sa fidélité. Dieu et sa fidélité. Parce que si on se souvient, quand Dieu était apparu à Jacob, à Bethel, il lui avait fait des promesses. Dieu avait dit au chapitre 28, « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Une promesse merveilleuse que Dieu avait faite. Et Jacob lui-même avait prié en disant à Dieu, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Et on voit ici dans ce chapitre que Dieu a tenu ses promesses. Dieu a tenu parole. Jacob revient en sécurité à Bethel. Et on voit même à la fin du chapitre 35, on n'a pas lu ça, mais on voit qu'il revient en sécurité jusqu'à la maison de son père. En quelque sorte, la boucle est bouclée. Dieu a tenu parole. Alors, ce n'est pas surprenant de la part de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas, alors il tient parole, il fait ce qu'il dit. Et parce que Dieu est tout-puissant, alors il peut faire ce qu'il dit, il peut accomplir ses promesses. Donc, ce n'est pas surprenant, mais c'est encourageant de voir la fidélité de Dieu tout au long de la vie de Jacob. Et alors qu'on a étudié ces chapitres de la Genèse, on a vu à quel point Jacob a changé, à quel point les circonstances de Jacob ont changé. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Les années ont passé et Jacob, c'est plus ce jeune fougueux et un peu insouciant. Il est maintenant âgé et rassasié de jours, on pourrait dire. Mais son Dieu est le même. Dieu est resté fidèle envers Jacob, fidèle envers ses promesses. Alors c'est vrai que tout n'a pas été rose pour Jacob et tout n'est pas rose pour Jacob. En fait, dans ce chapitre 35, il y a plusieurs décès qui sont mentionnés. Il est question au verset 8 du décès de Déborah, la nourrice de Rebecca. Rebecca, c'était la mère de Jacob qui lui avait dit de fuir quand son frère voulait le tuer. Et le fait que sa nourrice est mentionnée ici, la mort de sa nourrice est mentionnée, c'est probablement un signe que Rebecca, elle, était déjà décédée et que Jacob n'aurait donc visiblement pas vu sa mère après avoir fui sa famille il y a des années auparavant. Il est également question ici de la mort de Rachel au verset 19, l'épouse bien-aimée de Jacob. Elle meurt en donnant naissance à un fils, à Benjamin. Puis ce chapitre termine avec la mort de son père, la mort d'Isaac. Donc si ce chapitre, c'est une fin de film, c'est pas une fin en mode happy end. Pas tout à fait, en fait. C'est, dans un certain sens, on est rappelé d'aspects plutôt tragiques de la vie de Jacob. Sa fuite après sa tromperie, la bataille constante entre ses deux épouses, Rachel et Léa, les divisions au sein de la famille qui ont lieu, qui vont continuer. La vie de Jacob, c'est un peu comme un vase brisé qu'on aurait recollé ensemble pour faire quelque chose. Mais on voit que c'est un vase brisé dont Dieu se sert quand même. Une vie où Dieu agit quand même. Une vie dont Dieu se sert et où Dieu manifeste sa bénédiction. Où Dieu est fidèle. Et c'est la même chose pour nous dans nos situations brisées. Dans nos vies qui paraissent si compliquées, qui paraissent être justement comme des vases brisés. Bien, ce ne sont pas des vies qui sont en dehors du contrôle souverain de Dieu, qui sont en dehors de sa fidélité. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve toujours encourageant de parler avec des personnes qui sont plus âgées dans la foi et de les entendre parler de la bonté et de la fidélité de Dieu dans leur vie. Ils me parlent des épreuves qu'ils ont traversées, des difficultés dans leur vie, mais ils me parlent aussi de la fidélité de Dieu malgré tout, de comment Dieu les a accompagnés année après année tout au long de leur vie. Une de mes grandes joies, c'est pas possible avec le confinement, mais c'est de passer du temps avec mes grands-parents, mes deux grands-pères en fait des deux côtés, qui étaient pasteurs en France pendant plusieurs décennies. Et c'est juste une joie de les entendre me raconter des histoires. Pas des histoires dans le sens des fables, mais des histoires dans le sens le récit de leur vie. Tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé, mais surtout de voir comment Dieu a été fidèle, année après année, tout au long de leur vie. C'est une des raisons pour lesquelles c'est une bonne chose que l'Église soit multigénérationnelle, qu'on ait des gens de tous les âges dans l'Église, pour que nous, les plus jeunes, on puisse voir le témoignage de vie de ceux qui sont plus âgés, qu'on puisse voir combien Dieu a été fidèle, combien Dieu a tenu ses promesses, et combien il sera aussi fidèle envers nous. C'est aussi pour ça que c'est toujours encourageant de s'intéresser à nos prédécesseurs dans la foi, de lire des biographies de chrétiens du passé, de missionnaires du passé. Là encore, pour voir combien Dieu a été fidèle, pour voir combien Dieu a tenu ses promesses, pour voir combien Dieu ne change pas et combien il sera le même envers nous aujourd'hui. Comme vous, j'imagine, j'étais vraiment triste d'apprendre ces nouvelles concernant le projet de bâtiment. C'est un coup dur, n'est-ce pas, d'apprendre que ce projet doit s'arrêter là subitement. Ça semblait si bien parti, ça semblait être en bonne voie, tout se mettait en place. Et puis presque du jour au lendemain, tout doit s'arrêter. C'est dur. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et là encore, on peut regarder dans le passé. Samuel nous a parlé plusieurs fois du passé de l'Église et de la manière dont Dieu a agi, dont Dieu a été fidèle envers l'Église dans différentes situations. Et Edwin et d'autres pourraient nous raconter beaucoup d'histoires, beaucoup de récits de la même manière, combien Dieu a été fidèle, non seulement concernant le bâtiment, pour permettre à ce que l'Église ait un bâtiment quand elle n'en avait pas, que l'Église fasse des travaux, que l'Église grandisse, mais aussi et surtout concernant l'Église elle-même, les personnes qui rassemblent cette Église, comment Dieu a permis au fil des années que l'Église grandisse, que l'Église glorifie Dieu de différentes manières. Et nous, on est la preuve aujourd'hui de cette fidélité de Dieu. On sait que Dieu est fidèle et que ce qu'il a fait dans le passé, il continuera à le faire. Il continuera à prendre soin de son Église. C'est son projet, c'est son Église. Il est fidèle. Et donc, on est encouragé malgré la déception, malgré les craintes qu'on pourrait avoir. Dieu et sa fidélité. Mais la dernière chose qu'il faut mentionner dans ce texte, et là où on va terminer en passant un peu plus de temps, c'est on doit regarder à Dieu et sa bénédiction. Dieu et sa bénédiction. Parce qu'on voit dans ce chapitre que Dieu parle à nouveau à Jacob pour le bénir. On voit ça en fait dans les versets 11 et 12. On voit que Dieu dit ceci à Jacob. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. » Et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Cette bénédiction va dans le même sens que ce que Dieu avait déjà dit à Jacob. Il lui avait promis de lui donner la bénédiction d'Abraham, un bon pays où habiter, une descendance nombreuse qui comprendra même des rois, comme on l'apprend ici dans ces versets. Une bénédiction telle que ça aura pour effet de se répandre et de bénir les autres nations. Et une relation privilégiée avec le Dieu de l'univers. C'est ça les promesses que Dieu avait faites à Abraham, que Dieu a répété à Isaac et que Dieu a également répété à Jacob. Cette bénédiction se transmet et Dieu promet de l'accomplir au travers de cette lignée. Alors on doit juste mentionner ici, alors qu'on arrive à la fin de notre série sur la vie de Jacob, que certains enseignent à tort que cette bénédiction nous concerne aujourd'hui sous la même forme qu'elle concernait Abraham, Isaac et Jacob dans le passé. C'est ce que met en avant surtout l'évangile de la prospérité. Et par exemple, Lisa Combs, la sœur de Joel Austin, qui est un des prédicateurs les plus célèbres de l'évangile de la prospérité, dans un article, dit ceci, que l'héritage, enfin je cite pas mais je rapporte ses propos, elle dit que l'héritage d'Abraham, il est le nôtre, et qu'on peut avoir aujourd'hui toutes les bénédictions qu'Abraham a eues, sous la même forme, si seulement nous réclamons notre héritage. Parce que Dieu a promis à Abraham d'être grand, d'être prospère, d'être béni, alors selon elle, on doit s'attendre aujourd'hui, nous-mêmes, à vivre la même chose, à être grand, à être prospère, à être riche, à avoir que du succès dans notre vie, si seulement on a assez de foi, être béni par Dieu matériellement et physiquement. Mais appliquer la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de cette manière directe à nous aujourd'hui, ce serait passer totalement à côté du sens de ses promesses. Ce serait passer à côté du but que Dieu avait en faisant ses promesses. Et ce serait passer à côté de la manière dont Jésus a accompli et accomplit encore ses promesses. Et c'est pour ça qu'alors qu'on termine notre série de prédications sur le cycle de Jacob, c'est utile de juste prendre un peu de recul dans le grand récit de la Bible, un petit dézoom et de faire un survol pour voir d'où est-ce qu'on vient et où on va dans ce grand récit que Dieu est en train d'accomplir. Dans le livre de la Genèse et dans l'histoire de l'humanité, il y a un élément majeur qui a produit un renversement universel. C'est le récit de la chute de l'humanité dans Genèse 3. Là, dans ce récit, on voit que les premiers êtres humains, Adam et Ève, ils se rebellent contre le Dieu bon et souverain qui les a créés. par leur offense commise envers Dieu, ils font venir la malédiction sur le monde parfait, sur le monde merveilleux que Dieu avait créé. Et après ce renversement majeur, c'est de pire en pire. On voit qu'alors que les êtres humains se répandent sur la terre, le mal aussi se répand sur la terre. Les actions mauvaises des hommes appellent un jugement de la part de Dieu. C'est de pire en pire. Mais en Genèse 12, de manière surprenante, de manière pleine de grâce, Dieu bénit. Dieu se révèle à Abraham et lui fait des promesses universelles de bénédiction. Un bon pays, une descendance nombreuse, une relation privilégiée. Ah mais l'idée de renverser la malédiction de Genèse 3, probablement, c'est là l'espoir de revenir au monde qu'on connaissait avant. Et on voit que cette bénédiction, elle est transmise à sa descendance, à Isaac, son fils, et à Jacob, le fils d'Isaac. On se demande comment cette bénédiction va se mettre en place, et on voit que Joseph, le fils de Jacob, il rentre en scène. On se dit, ah mais c'est peut-être lui l'espoir. Et puis Joseph est livré en Égypte par la main de ses frères. Mais dans la providence de Dieu, c'est le moyen par lequel la famille de Jacob subsiste et continue à vivre malgré la famine. La famille de Jacob grandit, se multiplie en Égypte et devient un peuple, le peuple d'Israël. Ce peuple est nombreux, oui, Dieu a accompli une partie de ses promesses, mais le peuple est en Égypte, il est loin du pays promis. Et on voit dans le récit de la Bible que cet accueil bienveillant des Égyptiens, il se transforme très vite en esclavage douloureux et lourd. Et puis Dieu agit de manière miraculeuse pour faire sortir son peuple d'Égypte. C'est le récit de l'Exode. Et on se dit, ah mais enfin, le peuple d'Israël, de Jacob, va aller dans le pays promis. Là, les promesses vont être accomplies. Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. On voit que Dieu conclut une alliance avec le peuple dans le désert, par laquelle Dieu s'engage à bénir le peuple, à lui faire du bien, et par laquelle le peuple s'engage à obéir à Dieu, à obéir à ses commandements. On se dit, ah mais c'est magnifique, tout va bien se passer. Mais alors que nos espoirs sont au plus haut, on est brusquement ramené à la réalité. La réalité du péché du cœur humain. La réalité de ce problème qui dure depuis Genèse 3. Le peuple se rebelle contre Dieu, tombe dans l'idolâtrie et veut même retourner en Égypte. Dieu aurait très bien pu détruire ce peuple et il était sur le point de le faire. Mais en raison de ses promesses à Abraham de bénédiction, Dieu fait preuve de miséricorde et Dieu détourne sa colère. Et on voit cette tension-là présente tout au long de l'Ancien Testament. Dieu va accomplir ses promesses envers Abraham, envers Isaac, envers Jacob. Il va faire ce qu'il a promis. Mais le peuple est désobéissant et le peuple ne mérite vraiment pas d'être béni. Et on voit ensuite que Moïse laisse la place à Josué. Et on a de beaux espoirs, ça semble bien parti. Le peuple fait la conquête du pays promis. On se dit, mais enfin, l'histoire va être terminée, la boucle va être bouclée. Le peuple pourra vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants dans le pays promis. Mais alors que nos espoirs sont au plus haut, on est à nouveau ramené à la réalité du cœur humain, la réalité du péché, la réalité de la rébellion humaine. Le livre des Juges nous montre toute la noirceur du cœur de l'homme et ce qui se passe quand l'être humain est livré à lui-même. Et puis on voit que la royauté se met en place en Israël et on se dit « Ah mais enfin, tout va être réglé avec un roi qui va régner sur le peuple !» Mais tous les rois sont imparfaits. Tous les rois sont incapables d'accomplir la bénédiction dont le peuple a besoin. Même David, qui semble être le meilleur roi d'entre tous, qui semble être le roi par excellence, il finit par tomber de manière misérable dans le péché et il montre combien il est imparfait. Et puis on voit que les rois se succèdent, certains sont plus mauvais que d'autres, certains sont vraiment plus mauvais que d'autres, mais tous sont vraiment imparfaits. Et on se demande, mais quand est-ce que cette bénédiction que Dieu a promise pourra enfin avoir lieu? Quand est-ce que ça va venir? Puis les prophètes entrent en scène, ils annoncent l'exil qui va venir, le jugement de Dieu en conséquence de la désobéissance répétée du peuple. Mais ils font aussi des promesses merveilleuses. Des promesses merveilleuses qui sonnent à l'oreille, un peu comme les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. Des promesses de bénédiction, des promesses pleines de grâce, de consolation, de réconfort, d'un avenir merveilleux. Et même des promesses, oui, même des promesses de pardon des péchés. D'un avenir qui ressemblera au monde qui existait avant Genèse 3. On se dit, ah mais enfin, ça va venir. Les prophètes font des promesses qui parlent d'un roi parfait qui sera bien meilleur que David, d'un serviteur souffrant qui allait donner sa vie pour les péchés du peuple, d'une période de bénédiction et de joie grâce à celui que Dieu allait envoyer. Mais le temps passe et cet envoyé de Dieu n'est toujours pas venu. Le peuple finit par être emmené en exil par des nations étrangères. Le peuple est jugé. Le peuple est détruit. Le peuple est brisé. Les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob semblent loin. On se dit, mais est-ce que Dieu a oublié ses promesses? Est-ce que Dieu ne peut pas tenir ses promesses? Quand est-ce que Dieu va tenir parole? C'est le silence total. Des années passent, des dizaines d'années passent, des centaines d'années passent. Et puis Jésus entre en scène. Jésus entre en scène et on voit qu'il est là, le roi parfait, meilleur que David, qui est sans défaut, qui obéit à Dieu parfaitement. Il est là, le serviteur souffrant qui donne sa vie pour les péchés du peuple. Il est là, le sacrifice parfait qui prend sur lui le jugement de Dieu et qui permet aux êtres humains d'être enfin en bonne relation avec Dieu. Il est là, celui qui permet l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, de ses promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob. En fait, on voit et on réalise que c'est vers lui, c'est vers Jésus que pointaient toutes ces promesses. C'est seulement lui qui peut accomplir toutes ces promesses. La bénédiction que l'on a en croyant en Jésus, c'est la bénédiction promise à Abraham. Et comme Paul le montrera dans Galates 3, c'est rien d'autre que le privilège d'être déclaré juste par Dieu, par la foi, d'avoir le pardon des péchés, d'avoir une relation privilégiée avec Dieu qui est notre bon Père céleste. C'est ça que Dieu avait en tête en se révélant à Abraham en Genèse 12. Un pays, une descendance, oui, mais comme moyen de pointer et d'évoquer quelque chose de bien plus grand, quelque chose de bien plus merveilleux, bien plus durable. La bonne nouvelle de l'Évangile que Jésus vient accomplir par sa vie, sa mort, sa résurrection. L'Évangile qui produit le renversement de Genèse 3, le retour à un monde parfait. Et ça nous aide à voir que l'histoire ne s'arrête pas avec la venue de Jésus. L'histoire continue. Parce que oui, on a en partie l'accomplissement de ses promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob. On est pardonné de nos péchés. On a Dieu qui est notre Dieu, cette relation privilégiée. Il y a un peuple qui est issu de toutes les nations de la terre. Mais on attend encore la pleine réalisation de ses promesses. Hébreux 11 nous dit que, en parlant des personnages de l'Ancien Testament, tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi ? Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Cette chose meilleure dont il est question que Dieu avait en vue, c'est la patrie céleste dont nous parle Hébreux 11, la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est vers cela que regardait Abraham, c'est vers cela que pointent les promesses de Dieu dont on a parlé. C'est là que l'histoire sera terminée, que la boucle sera bouclée, dans notre pays promis, dans notre patrie céleste, dans un monde parfait, sans larmes, sans souffrance, sans le péché, sans toutes les conséquences du péché, dans un monde qui ressemblera au monde qu'il y avait avant Genèse 3, où Dieu habitera parmi les hommes, où on sera dans cette relation privilégiée et parfaite, où on vivra pour l'éternité. C'est là, dans la gloire avec Jésus, que l'histoire sera terminée. Et nous, en attendant, en 2021, on est au beau milieu de toute cette histoire. On est en train de vivre dans un monde qui se trouve entre Genèse 3 et Apocalypse 22, avec des promesses qui sont en partie réalisées, mais où on attend le plein accomplissement de ces promesses. Et dans ce monde-là, qui se trouve au beau milieu de cette histoire, on persévère. On persévère malgré la lutte contre le péché, malgré les problèmes de ce monde, malgré les craintes, malgré la peur, malgré tout ce que l'avenir réserve. On persévère en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance que Dieu va accomplir son plan jusqu'au bout, qu'un jour l'histoire sera terminée, la boucle sera bouclée. C'est qu'une question de temps. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu qui a été fidèle dans le passé. Et le Dieu qui continuera à être fidèle. Alors on persévère avec cette confiance, confiance qui vient de Dieu lui-même et qui nous permet de persévérer malgré la difficulté de cette vie. On va terminer en priant. Merci. Ô notre Dieu, merci pour cette histoire de Jacob qui ne nous demande pas de nous arrêter à Jacob, mais qui nous demande de porter les regards vers toi, vers ta grandeur, vers ta fidélité, vers ta bonté, vers ta grâce. Merci pour cette grâce merveilleuse que tu as manifestée envers Jacob, mais que tu as aussi manifestée envers nous. Notre Dieu, on réalise aussi que cette histoire de Jacob nous demande de porter les regards plus loin au Seigneur Jésus, à ce qu'il a accompli par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Merci parce que grâce à lui, on est au bénéfice de ses promesses. On est inclus dans ce plan merveilleux. qui continuera jusqu'à la gloire. Ô notre Dieu, donne-nous de persévérer malgré ce qui est difficile. Donne-nous de ne pas perdre confiance en toi. Donne-nous de garder les yeux fixés sur cette cité céleste dont toi tu es l'architecte et le constructeur. On te remercie pour ta bonté et ta grâce envers nous et on te prie qu'on ne puisse pas l'oublier chaque jour de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen.